Retour vers le passé, une émission proposée par tous les élèves de 5e du collège de Gémozac. Suivez les aventures historiques de nos héros sur les routes de Pau.
Retour vers le passé. Chapitre 1, le passage.
Johan, attends-moi.
Mais celui-ci n'entend rien et file à travers les vignes de Villarampont toujours en tête. Guillaume, qui a du mal à suivre le quad avec son scout, est vexé et jaloux.
C'est sûr, c'est encore lui qui va gagner.
Bien qu'il n'ait que 13 ans, ce grand garçon costaud fait plus vieux que son âge, avec son corps musclé de sportif, ses cheveux bruns presque noirs qui brillent dans le soleil de juillet. Il se retourne et voit Isabelle essoufflée qui pédale tant qu'elle peut. Cette fois-ci, la voix s'est faite plus douce, presque suppliante.
« Johan, attends-moi !»
Le charme opère. Il ralentit et lance un regard amusé vers la jeune fille. Il nargue ses camarades sans méchanceté.
« Bah alors, c'est qui le meilleur hein ?»«
Bah évidemment, t'es parti le premier. »
Elle veut paraître renfrognée, mais n'y parvient pas et repart en riant.
« Cette fois-ci, vous me laissez gagner. »
Les deux garçons se regardent, complices. « Bien sûr qu'ils vont la laisser arriver la première, Isabelle. Elle est trop belle pour ne pas lui obéir, d'autant plus que l'adolescente est facile à vivre. » Toujours de bonne humeur, à rire de leurs blagues, toujours partante pour les défis. Un petit bout de femme qui ne veut pas avoir froid aux yeux. Surtout devant les garçons. Au loin, elle s'est arrêtée et a sorti un ballon.
Cuchot ?
En réponse à la provocation, Johan et Guillaume se précipitent sur la boule de cuir. Mais celle-ci leur échappe, roule vers un tronc d'arbre, puis disparaît, comme happée par des sables mouvants invisibles. Sans réfléchir, les trois collégiens se ruent à sa suite. Au pied du chêne, un trou béant apparaît. Ni une ni deux, il rampe et pénètre dans le boyau. Après une pente assez douce mais glissante, ils parviennent dans une grotte. On entend le bruit léger des gouttes d'eau qui glissent le long des stalactites. Les enfants frissonnent et se regardent, à la fois émerveillés et incrédules. Johan l'intrépide frappe le sol du pied.
Mince, on n'a pas notre équipement. Qu'est-ce qu'on fait? On revient demain avec? Moi j'aimerais bien pour m'y entraîner.
Il se tourne vers ses amis. Isabelle opine sans hésiter, mais Guillaume est plus réticent. Au collège, lui aussi fait partie de la classe à option escalade, mais bien qu'il ait été sélectionné l'an dernier, il préfère le foot. Il allait répondre quand, en tournant la tête, il aperçoit dans la pénombre une ouverture à peine éclairée qui semble se perdre dans les profondeurs de la terre. Il la pointe du doigt.
« Regardez, s'il y a de la lumière, ça indique bien la sortie, non ?»
Il joint le geste à la parole, s'engouffre dans le tunnel. Les deux autres, de le suivre. Assez rapidement, le terrain remonte. Des racines blanchâtres forment un mur et un plafond compact. Les enfants reprennent espoir et, dans un regain d'énergie, accélèrent le pas. Soudain, la galerie bifurque à 90 degrés sur la gauche. Une énorme pierre bouche le passage, avec, presque en son centre, figé dans une entaille, un livre. Fasciné, Johan s'avance vers l'ouvrage, mais Guillaume, plus prompt, y parvient le premier. Surexcité, il oublie toute prudence et crie.
« Comme Excalibur, on l'a vu en cours de français !»
Isabelle tente d'un ton sec de calmer son fougueux camarade en l'empêchant d'avancer davantage.
« Ne raconte pas n'importe quoi !»
Elle se tourne vers l'autre garçon.
« Et toi, qu'en penses-tu, Johan ?»
Mais celui-ci n'entend rien. Alors que Guillaume tente d'extirper le livre, à pas lents et comptés, happé par une force inconnue qui l'entraîne irrémédiablement vers la roche, hypnotisé, Johan fixe l'objet et marche solennellement vers lui. Il lève la main, les fleurs. Le livre devient alors luminescent et révèle sur la tranche une toute petite plaque de cuivre. Elle a la forme ciselée d'un L inversé ou d'un T, dessinée d'une main tremblotante et incrusté sur la gauche de lapis-lazuli. Mais là encore, non pas de manière régulière, mais dentelée, comme si une souris en avait grignoté la frange, mais avec une virgule en son presque milieu qui vient déborder sur le métal. Johan en esquisse le contour avec un doigt.
Elle masque l'emplacement d'une serrure. Nous devons en trouver la clé pour venger l'aigle.
Ses paroles résonnent. Ses deux camarades sentent la sueur couler le long de leur dos et échangent un regard à la fois craintif et interrogatif. La voix de leur camarade est monocorde et caverneuse, fantomatique. Elle n'est pas la sienne.
Suivez-moi.
Johan, redevenu lui-même, révèle un minuscule passage sur la droite. Il permet de contourner la pierre et de progresser vers cette lumière qu'il leur tarde tant à présent de retrouver. Au bout d'un assez long moment, ils parviennent à une porte très vieille, rouillée, aux bois très épais. Avec un grincement de dents, ils la font tourner sur ses gonds. Elle résiste un peu, bien que très lourde, puis finit par céder. Le portable d'Isabelle s'éteint subitement, au moment même où celui de Johan clignote. Quant à celui de Guillaume, il ne cesse de vibrer. Toute joie, intrépidité ou impatience a fondu comme neige au soleil. Silencieux, le visage crispé et tendu, les enfants parviennent à une galerie que des torches éclairent faiblement. Sur la droite, une cavité à l'odeur pestilentielle. Les enfants y jettent un regard pas très rassuré. Des rats, une écuelle vide renversée et, contre la paroi, un homme, très sale, très maigre, dont les haillons tombent en lambeaux et restent collés à la peau décharnée. Des fers entravent ses chevilles et son cou. Son état est si pitoyable qu'il n'a pas la force de réagir à la vue des enfants. Seuls ses yeux exorbités expriment la peur et sa bouche se tord en un rictus effroyable. Veut-il leur parler ? Les trois amis, trop apeurés, ne cherchent pas à le savoir et forcent le pas pour s'éloigner au plus vite de cet endroit qui les met si mal à l'aise. Le boyau à l'odeur fétide s'élargit à mesure de leur progression. Ils n'en finissent pas de gravir des degrés glissants qui les obligent à se tenir le long du mur huileux et suintant d'humidité. La dernière marche leur donne la perspective d'une grande salle voûtée, lumineuse. Le téléphone de Guillaume cesse enfin de vibrer. Machinalement, il le prend en main. L'écran s'éclaire et indique la date, 10 mai 1179.
Chapitre 2, Ponte dell'Enda Est.
La pièce dans laquelle ils arrivent a le toit et les portes en bois de chêne. Les murs sont en pierre blanche. Il y a une cinquantaine de destriers noirs qui mesurent tous 1,60 m et une dizaine de jeunes coursiers plus petits. Il règne une forte odeur de foin, de paille fraîche, de crottin, et les chevaux tapent de temps en temps des pieds. Parmi les haquenés, il y a une jument nommée Jonquille, 6 ans, qui aime beaucoup être avec Éclair, un hongre de 2 ans, dont le box est situé entre celui de Jonquille et d'Hermine, une amble de 3 ans. Avec son 1,35 m, cette dernière est la plus petite et la seule jument blanche qui a un œil bleu et un œil blanc. À l'écart des box, dans l'air de pansage, un jeune garçon est occupé à changer la paille. Il se dirige vers le box de Timor quand il voit les trois collégiens. Son visage s'éclaire.
Jeune Guilhem, enfin vous voici! Et vous, Isabeau, que Dieu vous bénisse. Jeanne, notre bon seigneur vous cherche depuis 2 bonnes heures. Mais où étiez-vous donc passé ?
Le jeune garçon d'environ 8 ans, qui tient de sa dextre un frison gris clair avec des petites taches grises, une crinière gris foncé et des yeux marrons comme la terre en été, le délaisse pour courir vers eux. Interloqués, nos trois amis sont trop sous l'émotion pour pouvoir articuler une seule syllabe et lui répondre. Pourtant, c'est bien à eux qu'il s'adresse, avec un naturel déconcertant. Mais ses prénoms, ce sont bien les leurs, mais... vieillis d'un autre temps. Mais que diable leur arrive-t-il ? Quel miracle, ou plutôt quel acte de sorcellerie ? Car ce ne peut être que l'œuvre du malin que cette mauvaise farce les amène en ce lieu. 10 mai 1179 ? Que font-ils dans une écurie ? D'où ce petit diable les connaît-il ? Le garçonnet qui se tient devant eux les dévisage sans surprise. Ses yeux, aussi bleus qu'un ciel d'été, montrent le bonheur de les voir, bonheur qui fait rosir sa peau et ses taches de rousseur. Tout son être reflète l'intelligence d'un rat, la ruse du renard, mais aussi la bravoure et l'honnêteté. Même s'il est malicieux, il semble franc. Il porte une tunique bleue et or, décorée simplement sur le cœur, d'un blason ou trois ponts en jambes de l'eau. À côté est brodé son prénom en fil d'or. Guillaume le premier prend la parole, gêné et évasif.
Nous n'étions pas bien loin. Et toi, Enguerrand, que fais-tu ?
Tu le vois bien, je nettoie l'écurie, je ne serai pêche que dans quelques mois. Il me tarde de l'être. Ainsi, j'apprendrai si bien à me battre que je deviendrai vite un chevalier aussi émérite que Sir Geoffroy.
Isabelle veut lui demander des explications lorsqu'un bruit énorme retentit et fait trembler les murs. Puis un autre, suivi rapidement d'un troisième. Les ondes de choc les entourent, elles proviennent de toutes parts. Les quatre enfants échangent des regards interrogatifs, puis leur nouveau compagnon part en courant vers la porte, qui ne semble pourtant pas être une issue salvatrice, car de la poussière et de la fumée l'obstruent. Johan, Guillaume et Isabelle crient en chœur.
Enguerrand, on vient avec toi.
Le jeune garçon est déjà loin, mais sur le pas de la porte, il se retourne et leur lance.
Hâtez-vous, par la grâce de Dieu, notre Père Tout-Puissant, vous allez pouvoir nous aider. Mon sire a réveillé la colère de Richard qui nous assiège depuis bientôt 4 mois. Entendez-vous les coups donnés dans les murs? Entendez-vous les cloches qui sonnent le tocsin? Richard entreprend de détruire le château. Vite!
Les trois amis se précipitent à sa suite hors des écuries, désorientés. Pour une arrivée dans le passé, c'est une tornade. Mais qui est ce Richard? Cœur de Lion? En effet, un beau jour, le duc d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion, décide avec détermination de raser le château de Pont, dont le seigneur est Geoffroy III, parce que celui-ci l'a trahi en rejoignant le roi de France. Il ordonne à Théobald, seigneur de Mel, et à 100 seigneurs poitevins, de réunir leurs meilleurs hommes pour attaquer le château. Ils réussissent à réunir 10 000 hommes, dont 2 500 esclaves. Puis, Richard envoie un messager en Angleterre pour commander 3 bateaux aux charpentiers qui transporteront l'ost et le matériel. Les navires sont prêts après 6 mois de fabrication. Les Anglais peuvent les utiliser pour pouvoir aller à Royan, puis une fois arrivés, ils continuent le chemin à pied et à cheval. Théobald, quant à lui, ordonne à la moitié des esclaves de couper du bois car il veut installer un siège autour du château de Pont pendant que les autres construisent les palissades qu'ils installent par la suite avec l'aide des chevaliers les moins forts, toujours sous les ordres du seigneur.
1 mois plus tard, le siège est construit. Richard peut alors provoquer Geoffroy. Il va d'un pas décidé sur le pont qui mène au château et on lui ouvre la porte, même si on sait qu'il est prêt à tuer, car Richard est un sanguin et cela ne rassure personne qu'il vienne l'épée à la main. On ne peut refuser l'entrée d'un château à un prince, même furieux. Geoffroy, lui, est prêt à affronter le monstre qui se dresse devant lui et le menace jusqu'à la mort. À cet instant, il aurait bien aimé être en armure. Des frissons de peur parcourent son corps malgré son très grand courage reconnu de tous. Richard, le premier, le toise.
« Toi qui te dresses devant moi, vassal qui me renie, tu vas mourir d'un coup d'épée. Je te blesserai et en un coup je t'achèverai. »«
Je ne céderai pas sous votre pression. Grâce à Dieu, je vous écraserai et vous oxyrai sans pitié, Plantagenet. »«
Vous n'allez rien à faire avec votre frêle carcasse. »
Geoffroy, sous la risée, préfère rester calme car il connaît son adversaire. Autrefois ami, il sait combien ce comportement le met encore plus hors de lui.
Votre réputation de sanguin ne changera donc jamais. Vous resterez comme ça toute votre vie. Agir et réfléchir. Après, j'ai l'impression que telle est votre devise.
Vous osez me dire ça? Vous n'avez donc point peur de mourir?
Non, je n'ai pas peur de mourir car c'est vous qui allez périr sous la lame de mon épée et sans un coup férir.
Mais bien sûr, nous allons voir dans les jours qui viennent si vous me tuerez.
Et depuis Noël, Richard nous assiège. Pourtant, il devrait avoir peur de la justice divine. Que je vous raconte pourquoi. Pour fêter la naissance de Jésus, Richard Cœur de Lion se rend à cheval avec toute sa cour à l'église de Sainte-Eutrope pour la messe de Noël. Une fois qu'il est arrivé, il descend de sa monture et laisse son cheval à son écuyer. Il attend que toute sa cour soit prête à entrer dans l'église pour en franchir le portail richement décoré. Les nombreuses sculptures multicolores donnent à l'édifice une beauté incroyable. Richard est fasciné, notamment par la double rangée de chapiteaux. Quelle variété dans les motifs et quelle dentelle de pierre que la robe de Sainte-Eutrope. Après avoir attendu et réuni toute sa cour, le duc d'Aquitaine et tous ses hommes entrent dans l'église et prennent place aux premières loges pour la messe. Comme le veut leur rang et la coutume dans l'église basse. Les hommes se mettent d'un côté et les femmes de l'autre. Le prêtre arrive, habillé d'une bure blanche attachée d'une simple broche dorée. En regardant le fond de la travée, celui-ci aperçoit quelques paysans qui entrent, un chapeau à la main, vêtus de leur tenue habituelle et d'un saillon qui fait une sorte de short. Devant les portes, il aperçoit des chevaliers qui ont revêtu une armure plus légère que pour les combats, avec un poignard accroché à leur ceinture. Sur les rangs du milieu, il y a des villageois qui portent des chins et pour les femmes des bliots. Quelques-unes portent un couvre-chef et les plus riches des chaussures ou des bottes en cuir marron. Richard aussi regarde autour de lui et songe combien l'homme peut être faible. Un jour pieux, comme aujourd'hui où il va prier longuement et sincèrement pour son Dieu, et le lendemain, paillard, comme le veut cette tradition, où le peuple entre dans ce lieu sacré, déguisé en âne, ponctuant chaque prière d'un « i-an » bien sonore et espiègle, se moquant ainsi des représentants de l'église, pour élire l'évêque des fous, puis envahissant le parvis pour admirer les acrobates. Même les clercs parodient le service divin et supportent qu'un âne déguisé en curé en ayant bu beaucoup de vin entre dans ce lieu. Il entend d'ailleurs l'un d'eux s'adresser à un gamin de 12 ans, Germain, qui se fait sermonner car il amuse son entourage.
Hé petit, tu voudras jongler avec moi demain ?
Je sais pas.
Allez viens, c'est une opportunité. Je vais t'aider à t'entraîner après la messe et tu pourras faire l'âne en jonglant. D'abord, tu tiendras 2 balles dans tes mains et si tu y arrives bien, tu pourras essayer jusqu'à 10. Divertir les gens, c'est un métier, tu sais.
Une lueur de fierté s'allume dans l'œil du gamin.
Quelle chance de jouer avec des professionnels !
Il accepte, impressionné.
Demain, je serai le plus bel âne de la fête et personne ne pourra me gronder, même pas le prêtre.
Pendant ce temps, dans la sacristie, la prestigieuse abbesse Hildegarde de Bingen, qui honore la messe de sa présence, a une vision. Vous savez combien le pape lui-même reconnaît sa valeur et accrédite le lien tout particulier qu'elle entretient avec Dieu. Elle voit, tout droit venue de la sainte lumière qui traverse les vitraux de l'église, une image de la ville de Pont que Dieu protège à l'aide d'un immense bouclier sur lequel est inscrit « Virtute Dei, ponte non delendaes ». Selon la volonté de Dieu, Pont ne doit pas être détruite.
Protégée de Dieu, Pont non delendaes, Hildegarde va prévenir Richard Cœur de Lion, mais il n'écoutera pas l'abbesse, déclenchant une malédiction divine à son égard. Quelles conséquences auront ces actes? Quant aux trois collégiens, vont-ils périr dans la destruction du château ou retourneront-ils dans le couloir du temps?
Isabelle, Guillaume et Johan vous disent à demain même heure
pour la suite de Retour vers le passé sur Radio Pont.